Merci de cette invitation qui me fait faire un petit exercice que je n'avais jamais fait jusque-là. Dans la mesure où moi je suis, on peut dire, complètement le profane des archives et de tout ce travail-là, mais je suis, on peut dire, un producteur de papier, un producteur de documents. Ce que j'ai préparé, c'est une sorte un peu de parallèle entre deux types d'expériences militantes où j'ai été très engagé. Et j'ai essayé de dégager un certain nombre de choses qui ont à voir avec la question de la conservation des documents, de leur transformation en archives, etc. Alors, je vais brièvement donc vous présenter ces deux contextes de mon implication, donc deux contextes de production de papiers et documents divers. Et puis, je commencerai par, parce que c'est comme ça que ça s'est présenté, je pense, pas simplement dans ma tête, mais aussi dans les préoccupations des deux groupes, finalement les deux moments ou deux contextes dans lesquels on a pris conscience de l'existence de lacunes importantes et de pertes de documents, et comment s'est posée, on peut dire, une sorte de, entre guillemets, puisqu'on ne le disait pas comme ça, de besoin d'archives, entre guillemets. Alors, voilà. Dans un deuxième temps, je vous dirai en gros qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qui existe, voilà, qu'est-ce qui est accessible. Dans un troisième temps, j'essaierai de rassembler, disons, les facteurs explicatifs qui me semblent être, dans ces deux cas-là, les principaux obstacles au rassemblement de documents. Et puis je terminerai en parlant des moments ou des événements où, au contraire, il y a eu un effet de facilitation et d'incitation à la production de documents ordonnés. Voilà. Alors, donc deux contextes. D'abord, très brièvement, le contexte des années, début des années 70 au milieu des années 90, à peu près sur 20 ans. Donc un mouvement qui est très lié à tous ces mouvements de juristes du début des années 70, qui avaient vu la création d'abord du syndicat de la magistrature, puis du syndicat des avocats de France. Et en 72, des juristes ont pris l'initiative de faire quelque chose de transversal en créant en France donc le mouvement d'action judiciaire qui regroupait donc des représentants des magistrats, des représentants des avocats, donc de ces syndicats, mais aussi, c'était leur idée, ils ont sollicité finalement, on peut dire, des travailleurs du droit. Essentiellement des inspecteurs du travail, donc qui en France s'occupent du contrôle de l'hygiène et sécurité du travail, un certain nombre d'éducateurs spécialisés pour les jeunes travaillant à la protection judiciaire de la jeunesse, ou d'éducateurs travaillant en prison, et un certain nombre d'enseignants et de chercheurs dont j'étais. Et ce collectif va très tôt finalement se rassembler sur deux choses. C'est d'une part organiser des consultations juridiques gratuites, donc sur un modèle anglo-saxon, law shop, les boutiques de droit, dans lequel finalement des conseils étaient donnés à des personnes, souvent sur un mode collectif, et surtout les juristes qui étaient là, des principes de base, n'étaient pas identifiés, donc on ne s'adressait pas à un avocat, à un magistrat, voilà. Il y avait simplement des juristes et plusieurs compétents et qui essayaient de traiter, donc d'aider des personnes à traiter des dossiers. Donc il y a eu ce mouvement qui va quand même durer un certain nombre d'années avec des antennes dans plusieurs villes de France. C'est pas simplement un mouvement parisien. Il y en a eu à Lyon, il y en a eu à Bordeaux parce qu'il y avait l'école de la magistrature. Il y en a eu aussi à Marseille parce qu'il y avait un groupe d'avocats communistes très, très mobilisés, etc. Voilà. Et l'autre chose qui est intéressante, alors votre réflexion, c'est le fait que ce groupe crée une revue, donc qui s'appelle la revue Acte, donc Acte au pluriel, Acte Cahier d'action juridique. Et cette revue va fonctionner pendant exactement 19 ans et produire en gros une soixantaine de numéros. Qui sont des deux, c'était un trimestriel. Et le but de la revue, c'était de faire deux choses. C'était d'abord, par rapport à toutes les revues juridiques officielles, c'était de mettre en circulation des jurisprudences innovantes, des commentaires sur l'actualité législative assez critiques, et puis progressivement aussi de fournir des dossiers sur des grands sujets. Un des premiers grands dossiers que nous avons fait, par exemple, c'était celui sur les tribunaux militaires. Il y avait en 60, il y avait encore des tribunaux militaires en France. Et puis beaucoup de choses régulièrement sur le droit des immigrés, la consommation, le logement. Des dossiers de fond. Donc mon autre expérience, a pris un peu le relais, parce que quand Daniel Defer crée l'association Aide, il était aussi très sensible au fait qu'il y avait des risques importants de discrimination, et il va accorder toujours beaucoup d'importance au développement du secteur du droit des malades, dans la défense des droits des malades, lutte contre la discrimination. Et justement, il prend contact avec un de ceux qui avait été très actif dans le mouvement des boutiques de droit, qui va écrire les premiers statuts de Aide, et puis aussi avec moi. Et donc, je vais devenir militant de Aide, et là, je suis resté militant pour les aspects juridiques, mais j'ai été président de la région Île-de-France et vice-président de la fédération pendant 4 à 5 ans. On se situe dans le début des années 90, c'est cette période-là. Ouais, moi j'arrive et créé en 84, et moi je vais être en fonction, disons, de responsabilité politique, disons, de 80, durant presque la décennie 90, quelque chose comme ça. Donc voilà un peu les deux contextes. Alors on en vient à notre affaire. À partir de quel moment s'est posé la question d'un, entre guillemets, besoin d'archives? Je me souviens très bien, donc. Appeler ça hier soir notre collègue. D'abord pour les juristes, je me souviens plus très bien de la date, mais c'est à un moment donné, il y avait eu de nouveau des problèmes avec la justice des mineurs, et on s'est dit, on avait fait un super numéro avec un super dossier il y a 8 ans sur ça. On avait plein de documents, on avait des listes de noms, on avait fait des réunions, parce que tout ça a été préparé collectivement, et il faudrait actualiser tout ça. Qu'est-ce que c'est devenu ? Ce que c'est devenu, ça avait juste disparu, comme tous les autres dossiers, puisque finalement, nous remettions un dossier à l'imprimeur, qui faisait les maquettes, la mise en page, etc. Et tout le travail de préparation en amont va se dissolver, et vraisemblablement va passer dans les poubelles des uns et des autres, puisque on était toujours en train de préparer. Donc ça a été une sorte un peu de choc parmi nous, et on a quand même décidé les uns ceux qui étions plus ou moins intéressés ou spécialistes de telle ou telle question, de quand même faire un petit stock. Donc, par exemple, ça permettra de faire, nous avons fait un petit livre sur les boutiques de droit qui a repris un peu l'histoire de cette innovation et puis du contenu, des façons de travailler. Voilà. Pour l'association AIDE, c'est venu différemment. Donc, à l'époque, moi, j'étais président d'Île-de-France. À l'époque, il y avait quand même beaucoup de monde, puisqu'en Île-de-France, il y avait c'était des comités départementaux. Il y en avait au moins 6, puis il y en a eu 7. Donc, ça faisait quand même autour de, à un moment donné, de 2000 personnes. Donc, ça faisait quand même... voilà. Et il y avait tout un problème de travail collectif. Et on s'est rendu compte que toute une série d'éléments de base, donc AIDE à ce moment-là existait depuis presque 10 ans, que la liste des militants n'existait pas, que la liste des cotisants existait annuellement, mais les gens qui entraient et qui sortaient, les gens qui entraient, oui, mais les gens qui sortaient, je ne sais pas ce qu'ils devenaient. Il y avait beaucoup d'activités à l'époque de suivi, puisqu'on est bien avant les traitements. Donc, une grande partie de l'activité de AIDE, c'était du travail à l'hôpital, c'était suivre des gens à domicile, c'était faire des consultations juridiques, sociales, médicales, etc. Donc, il y avait beaucoup de suivi, et qui avait une sorte d'opacité totale sur... sur ces interventions-là. Il faut mettre ça en parallèle. C'est intéressant ce que tu disais par rapport à les deux, l'intertextualité, je vois. Voilà. C'est que, moi, par exemple, quand nous sommes en fonction au début des années 90, c'est le moment de la création d'ACT UP, et tout d'un coup, nous avons un ennemi déclaré. Nous, pour ACT UP, nous sommes des bonnes sœurs, nous faisons du caritatif, nous sommes dans un état de complicité totale avec toutes les institutions des médicales, des policières, bref. Donc les militants sont très souvent, disons, interpellés, etc. Et AIDE est là, et ici, etc. Et personne n'a juste la mémoire de qu'est-ce qu'on a fait. Donc je reviendrai un peu plus loin sur cet aspect-là, hein, des dossiers sur la reconstitution. Mais je me souviens très bien à l'époque, prenons simplement un exemple, comme AIDE est une association qui était ouverte aux femmes, et où la question de l'orientation sexuelle n'était pas posée comme condition d'adhésion, donc AIDE n'était pas une association homosexuelle, était même une association d'homosexuels dans le placard, etc. Donc, voilà, ça horrifie absolument tout le monde, mais justement, on était sur le moment à peu près incapable de produire de l'argumentation pour dire mais qu'est-ce que AIDE avait fait spécifiquement vis-à-vis des groupes homosexuels. Et c'était la même chose avec les usagers de drogue, les prostituées, Bon. Enfin voilà, donc ce type de moment où tout d'un coup, l'obscurité totale du passé, même du passé très récent, est devenue un problème politique. Quand on a ouvert les tiroirs, alors conditions facilitantes, si on en a parlé hier soir, c'est quand même il y a toujours eu plus ou moins dans les comités de AIDE un centre de documentation qui suivait plutôt évidemment l'actualité médicale, mais aussi quand même des revues de presse, et puis de fait. Alors, que ce soit au niveau de la fédération en tant que telle, mais aussi, par exemple, au niveau des grands comités, c'est-à-dire ceux qui étaient grands au sens de nombreux, Île-de-France ou Provence-Côte d'Azur, par exemple, il y avait suffisamment, disons, de moyens et d'attention pour que des volontaires tiennent, en gros, ces centres de documentation, qui faisaient qu'un certain nombre de choses étaient déposées là, sans souci particulier, mais c'était quand même... Alors, quand on s'est mis à regarder ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on trouvait ? On trouvait surtout, concernant la vie de l'association, des traces du fonctionnement formel. Au moins, cet aspect-là était maintenu, c'est-à-dire les comptes rendus de conseil d'administration, les comptes rendus d'assemblée générale, bien évidemment, tout ce qui, dans ce contexte-là, était produit, c'est-à-dire les bilans d'activité des groupes, plus ou moins bien faits, enfin, forcément, ça y était, avec des chiffres, des effectifs de suivi, des sommes dépensées. Oui, parmi les facteurs, par exemple, qui pourraient, devant aussi, je reviens juste un pas en arrière, susciter un besoin de connaissance, c'est le fait que aide collecter des fonds, beaucoup de fons privés, de dons, et aussi redistribuer des aides. C'était l'époque où il n'y avait encore pas d'aide spécifique liée à la maladie, comme va devenir, par exemple, la maladie va permettre de toucher les allocations d'aide aux handicapés. Ça n'existe pas à l'époque, donc c'est aide redistribuer de l'argent. Et avoir une idée à un moment donné, dont ces sommes étaient en très grande progression, des profils des personnes qui étaient bénéficiaires, etc. Tout ça a été très, très flou, quoi. Hein. C'était fait au coup par coup. Donc, il va y avoir quand même... Donc, il y avait des bilans de ce type. Et puis également, donc un certain nombre, on peut dire, d'éléments de fond, d'éléments de dossier sur les grandes questions auxquelles, finalement, les groupes ont été confrontés. Et on le voit bien, par exemple, pour les juristes, finalement, le dossier qui a été le mieux suivi a été celui sur les boutiques de droit, qui a été suivi dans le temps, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a permis de faire un livre. Pour aide, c'était quand même les très grandes questions sur les conditions de dépistage, les discriminations à l'emploi, les discriminations à l'assurance, et puis sur le lien entre maladie et précarité. Donc on peut dire il y avait beaucoup de choses qui étaient plus ou moins rassemblées par les groupes. Il y avait des éléments. Ce qui était aussi accessible était le fait que, on peut dire, depuis la fin des années 80, aide avait toujours, c'était le grand reproche de l'ACT-UP, avait toujours eu un rôle participatif avec le ministère de la Santé et avec les services médicaux qui traitaient particulièrement du VIH, etc. Donc il y avait régulièrement eu des groupes de travail où des volontaires étaient envoyés et il y avait quand même un travail de relatif suivi qui était fait, ne serait-ce que sous forme de compte rendu, hein, de ces formes de participation, qui était quand même une matière. Et puis il y a eu le besoin. C'est là où l'affrontement avec ACT UP a été très, on peut dire, très bénéfique, très productif. C'est qu'on s'est mis à constituer des dossiers militants, au sens de dire, depuis que AIDE a été créée en 1984, voilà ce qui s'est fait en direction des homosexuels, voilà ce qui s'est fait en direction des usagers de drogue, en direction de milieux prostitués, etc. Et on a réussi à non seulement faire des... d'abord à retrouver au début c'était des tracts, puis des plaquettes, des documents qui au fond attestaient de ce qui avait été les positions qui avaient été prises. Alors après ça prendra un tour plus encore plus systématique quand tu auras, par exemple, il a fallu beaucoup de temps pour ce qui va devenir le Pax, par exemple, et déjà bon, le mariage, quand émerge à peu près au milieu des années, au milieu des années 90, les questions venant des volontaires et des personnes suivies de l'organisation d'une forme de partenariat sur le modèle nordique, etc. Donc on a travaillé pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de consultations, il y a eu, et c'est la première fois, par exemple, moi j'ai entendu quelque chose qui me semblait, enfin qui n'existait pas dans ma tête, je n'étais pas le seul, j'étais dans ça-là, très, je pense, un produit de ma génération, entendre des jeunes homosexuels en disant que pour eux, leur principal obstacle vis-à-vis de leur sexualité, c'était la paternité. Ils souhaitaient être parents. Et oui, on est au milieu des années 90, on entend ça de la part de volontaires, et donc on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait on était là à essayer de bricoler un partenariat civil, etc., et voilà les autres qui débarquent avec leur paternité, leur adoption, comme si c'était pas déjà assez compliqué. Bon. Voilà. Donc il y a eu assez tôt, on peut dire, de l'accumulation sur ces questions-là, et puis une autre aussi, qui aboutira, quand Daniel Defer crée l'association Aide, il met tout de suite en question le problème du secret médical et plus exactement de la monopolisation par les médecins de l'information médicale et des obstacles majeurs à la transmission, à la communication. Donc ce sera un des fils rouges du travail de Aide. Donc on a collecté des dizaines et des dizaines de cas, et finalement, donc ça aboutira dans une loi de 2002 sur le droit des malades, du droit des personnes malades. Il y aura cette inclusion de l'accès au dossier médical qui a été, on peut dire, l'enjeu le plus porteur, au fond, de la mobilisation et sur lequel on avait assemblé beaucoup de choses. Donc voilà ce qu'on trouvait. Alors maintenant, face aux lacunes, il me semble qu'il y a, disons, il y avait quatre obstacles principaux, à l'organisation des traces, à la constitution de documents, de séries, éventuellement plus tard d'archives. Bon, le premier, c'est non très banal, mais en dire quelques mots, c'est quand même des associations, des mouvements qui fonctionnaient beaucoup sur le principe de l'urgence et de l'action. Donc, ce qui était, la priorité absolue était un accaparement par les enjeux du présent et aussi à partir de diagnostics qui étaient faits sur des projets, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de constater, c'est qu'est-ce qu'on peut revendiquer, qu'est-ce qu'on peut projeter, etc. Et c'était cette sorte de pression permanente, par exemple, qui pour les juristes orientait le choix des dossiers qui étaient faits pour les numéros, pour une nouvelle loi, une législation, ou bien un problème social qui était apparu. Et pour Aide, on peut dire, c'était bien évidemment tout ce qu'on découvrait progressivement sur l'évolution de la maladie, les problèmes de prise en charge, etc. Le deuxième aspect qui vaut surtout pour Aide, parce que c'était une assez grosse structure, ça l'est moins maintenant, c'est quand même la question de la dispersion. La dispersion des actions et le fait que il n'existait pas de structure réellement centralisatrice. C'est-à-dire, par exemple, il y avait bien Bon Voyage, un conseil d'administration dans chaque comité et puis une fédération, mais la délégation était très très grande au groupe. Donc sur la façon de, non seulement sur les buts qu'ils se donnaient, mais aussi sur leur façon de faire. Donc ces groupes fonctionnaient beaucoup sur un mode de l'autogestion. C'est-à-dire qu'il y avait une organisation de toutes les permanences dans les hôpitaux, une organisation de tout le système d'aide à domicile et de visite, d'organisation de loisirs, etc. Et ces groupes travaillaient, on peut dire, ils avaient suffisamment de travail pour pour ne pas se poser la question de partage de méthodologie, de voilà. Hein. Ce qui est assez aussi en termes de dispersion, c'est assez évident. Je le dis aussi, en mettant moi-même en cause, il y avait de fait des formes d'accaparement, c'est-à-dire que les responsables de groupes et un certain nombre d'anciens volontaires étaient en gros devenus les spécialistes de ceci ou de cela, et chacun avait ça à domicile, sa documentation, ses carnets, tenait ses dossiers, voilà, sans qu'à un moment donné il y ait l'idée de transmettre ça à d'autres. Quoi. C'était des matériaux très personnels. Troisième type d'obstacle, je dirais, c'est la résistance à l'analyse. Je me suis entendu dire dans les deux cas, aussi bien chez les juristes qu'à Aide, en ayant pris conscience d'un certain nombre de lacunes dont j'ai parlé tout à l'heure, il dit « Ah bah oui, mais c'est bien parce que tu es universitaire que tu te poses ce genre de questions. Parce que finalement, nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là sur un engagement individuel, nous avons une implication subjective, politique, etc. Donc cette idée de prendre une distance, d'avoir une réflexion, de vouloir revenir sur le passé, tout ça, c'est du truc d'intello, quoi. Donc ça ne nous intéresse pas, on n'est pas là pour ça. Et il y avait très fort dans les deux cas une opposition, disons, entre les des valeurs individuelles, disons, d'engagement, d'implication subjective, versus des valeurs, on peut dire, de type professionnel, de type souci de systématisation, de rationalisation, de déshumanisation. Enfin, on savait où était le bien et où était le mal, et voilà, on était là pour faire le bien. Hein. Donc, une constante, c'est on n'est pas là pour ça. Hein, on n'est pas là pour ça. Et l'idée qu'il y avait des choses à transmettre, je me suis par exemple beaucoup accroché avec quelqu'un qui est absolument formidable, qui était un garçon d'origine anglo-saxonne. Qui est entré à peu près en même temps que moi. Donc, à un moment donné, nous étions les deux vieux, les deux ancêtres de la maison en Île-de-France. Et il était responsable du groupe le plus important en taille, donc, ça compte beaucoup les forces, des permanences hospitalières. Et il avait ce côté pragmatique anglo-saxon. Je me suis beaucoup bagarré avec lui sur le fait que ces groupes ne faisaient à peu près rien remonter et que lui-même ne savait pas ce qui se passait dans les différentes permanences hospitalières. Il y en avait, je pense, à une époque, il devait y en avoir en Île-de-France au moins une vingtaine. Et donc, nous, on apprenait, par exemple, par le groupe juridique, qu'il y avait eu un problème de maltraitance dans l'hôpital ou de violation du secret médical, etc. J'ai dit, c'est quand même bizarre que nous l'apprenons et que tes volontaires qui sont dans l'hôpital, qui voient les mêmes personnes, je veux dire, soit sont pas au courant, soit font rien remonter. Voilà. Et pour lui, tout ça n'avait pas de... Enfin, c'était pas un enjeu. Collectiviser, rassembler les informations, ça marche pas. Et puis, comme autre dernier facteur, je dirais aussi... Il y avait des questions des usages de l'information et des documents. Alors, Aide, ça ne s'est jamais tellement passé, si ce n'est que Aide a toujours été résistant à ce qu'il y ait des travaux qui soient faits, des mémoires, par exemple, faits par des gens extérieurs sur les groupes, sur les activités, etc. Dans le cas des juristes, nous avons vécu une très mauvaise expérience. Au sens où, en intermédiaire, nous avons donné accès aux archives qui étaient conservées et surtout nous avons organisé des réunions avec les anciens, etc. Parce qu'une juriste qui avait fait une thèse sur les juristes critiques pendant la période d'occupation, puis pendant la guerre d'Algérie, voulait continuer une recherche sur les juristes critiques, disons, de la nouvelle génération des années 80-90. Et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé au sens où, en gros, hein, pas le temps, on reviendra là-dessus. Bref, les membres du groupe ont eu l'impression d'être trahis, au sens où ce qui est sorti a été très peu de choses. Il y a eu un article, une communication qui a été faite, où en gros, évidemment, ça a été écrit, ça a été fait, oui, disons, au milieu des années 2000. Donc, pour nous, toutes les choses étaient terminées. Donc il y avait déjà un écart d'entre 10 et 20 ans par rapport entre le moment où cette analyse a été faite et le moment où les actions avaient été menées. Bref, la problématique principale, j'exagère un tout petit peu, mais quand même, était, voilà bien un exemple d'idéalisme juridique. Un manque de radicalité et une série de choses dans ce goût-là. Et donc, il y a eu un tel blocage dans le groupe, parce que nous continuons à nous réunir au moins une fois par an, qu'aujourd'hui encore, nous n'avons même pas pu passer à la numérisation de la collection des 60 et quelques numéros, parce que nous ne sommes jamais mis d'accord, ni pourquoi est-ce qu'on le faisait, où est-ce qu'on allait, il y avait plusieurs site possible pour le mettre, enfin voilà. Donc il y a une sorte de blocage complet sur la valorisation de ce fonds. Voilà, pour venir à des choses positives, donc il me semble qu'il y a trois types de moments ou d'événements qui au contraire ont été des facilitateurs dans le rassemblement de documents. Donc je disais tout à l'heure, il y avait d'abord le fait que AIDE avait quand même, plus que d'autres organisations, je pense, un souci assez, à certains moments, un peu centralisateur, vers des événements, etc. Donc il y avait des assises annuelles qui avaient à la fois un côté festif, mais également qui étaient l'occasion de dresser des bilans, de formuler des nouveaux projets, etc. Et beaucoup de choses ont été rassemblées. Disons, il y avait des ateliers, donc il y avait des actes qui étaient produits annuellement. Donc quand même, ça fait des matériaux. Il y a sur ça des traces, mais en même temps fort réducteur, parce que là on parle d'assises nationales, donc passer d'une synthèse nationale à ce qui se passait concrètement dans les différents comités, dans chaque comité, ce qui se passait dans chaque hôpital, etc., l'écart est considérable. Mais enfin, bon, il y avait ça. Deuxième type de facteur, les anniversaires. Donc il se trouve que moi, j'étais en fonction en 1994, et les assises avaient lieu à Paris, et j'ai été, responsable, puisque j'étais président, de ces 10 ans. Et là, moi j'ai vraiment voulu, c'était plein période d'affrontement avec ACT UP, marquer les choses, c'est-à-dire que on puisse j'ai fait beaucoup de forcing pour retrouver parce que moi je n'étais pas là quand AIDE a été créé. Retrouver les premiers membres, faire livrer des photos, obtenir de personnes dont Daniel Defer ses premiers documents. Donc non seulement on a rassemblé, on a fait ressortir des choses, les tracts dont je parlais, et surtout on a fait une sorte de dossier. Qui marque les dix premières années de AIDE, et ont été réalisés également deux films, je sais pas comment on appelait ça à l'époque, mais enfin bon, qui étaient des ex non c'était des diaporamas, voilà, comme ça. Dans lequel il y avait beaucoup d'images. De personnes, de moments, de témoignages qui ont été réalisés à ce, à ce moment-là. Bon, c'est assez classique, le mémoriel. Donc il ne s'est pas passé grand-chose pour les 20 ans, curieusement, mais là, les 30 ans, donc l'année prochaine, a donné lieu à une mobilisation importante, donc qui est renforcée par un troisième facteur, qui est le moment où il y a on peut dire, de l'archivage obligé. Donc, il y en a pour, je pense que tous les groupes, c'est la même chose. Le premier moment d'archivage obligé, c'est les déménagements. Donc, savoir qu'est-ce qu'on. Des camions tout à l'heure, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on déplace, étiqueter ce qu'on déplace, etc. Donc, aide à quand même conserver beaucoup de choses. Et puis, donc, le centenaire de la loi de 1901. A conduit, alors on a parlé un peu, pas très bien dans quel sens, mais enfin, mon sens, c'est devenu, sinon une obligation pour les associations agréées, mais du moins, il y a eu une initiative qui a été prise par les archives nationales pour regrouper ou créer des fonds sur la base des archives, des grandes associations. Et là, donc, il y a une mission qui est liée à ça, enfin, qui a été dynamisé avec l'objectif des 30 ans, pour qu'un certain nombre de dépôts soient faits, et comme je l'ai dit, donc certainement donc au tout début, en 2001, le premier inventaire avait dû être fait au moins au niveau de la fédération, savoir ce qu'il y avait. Et voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre donc, de dépôts. Et, par exemple, moi, j'ai eu la... C'est 2 mois, une personne a fait l'effort de... J'ai mis à disposition tout ce que j'avais dans mon bureau et sur mes étagères. Donc, elle a classé, ordonné tout ça. Mais il y a, par exemple, tout ce que j'ai chez moi, qui est aussi... qui est beaucoup plus en vrac. Mais enfin, bon, comme j'avais une idée de comment c'était réparti, il y a quand même... grande partie des choses sur le Pax, par exemple, sur la loi sur le droit des malades, sur les questions d'assurance, tout ça a été rassemblé et donc sera versé. Voilà. Et puis, dernier facteur, je pense qu'on a... On se rejoint aussi là-dessus par rapport à ce que vous avez dit, c'est que je pense que l'institutionnalisation des associations, le fait qu'elles soient finalement tenues, ne serait-ce que par les financements qu'elles reçoivent, oblige à avoir beaucoup plus que d'une transparence comptable. Une transparence sur les activités. Aujourd'hui, tout est financé sur programme, avec des évaluations, etc. Donc tout ça produit du suivi. Mais aussi, par exemple, nous avons un des projets qui a été totalement financé sur fonds privés, qui était un lieu d'accueil, qui s'appelait Arc-en-Ciel, qui était centré sur c'était avant l'électrithérapie, sur la qualité de vie des personnes, sur la nutrition, enfin voilà, qui était un lieu d'accueil permanent. Comme il y avait de très gros sponsors, on s'est toujours senti, enfin, c'était une nécessité, justement, de rendre des comptes et de produire pour eux des sortes de documents et de réunions annuelles, de bilans dans le lieu, etc. Et je pense que le fait qu'on se soit senti redevable de ces financements privés a aussi créé une obligation morale à rendre des comptes et à faire un suivi. Alors, par exemple, à Arc-en-Ciel, on ne voulait pas reproduire ce qu'on avait vécu dans le comité. Alors, on a même eu droit à des remarques, on peut dire, tout à fait louangeuses du style donc vous fichez les gens, quoi. En gros, donc il y avait un suivi, des gens qui s'inscrivaient aux activités, la régularité, puisqu'il y avait des ateliers nutrition, les gens pouvaient manger sur place, acheter des tickets, on savait au jour près combien il y avait de personnes, bon, l'informatisation avait facilité tout ça, donc ça a posé évidemment des questions de l'autre côté, mais pour nous, il y avait une sorte de nécessité absolue de justifier l'activité. Voilà, pour conclure, 2 points. Le premier, parce que c'est là, pour préparer cette présentation, j'ai eu une longue discussion avec la jeune historienne donc, qui a fait pendant l'été l'inventaire de mes papiers, ça comme ça. Donc, elle dit que ce qui l'a le plus frappé, c'est qu'il bon, y a beaucoup de choses, c'est une chose. Mais le grand manque dans tout ça, c'est quand même la généalogie des positions, c'est-à-dire comment finalement, des différentes étapes. Elle dit souvent, on voit bien le point de départ, on voit le point d'arrivée. Tout ce qu'il y a entre, comment les positions évoluent, qu'est-ce qui fait que tu changes d'avis, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on voit bien dans ce que j'écris, j'écris pas la même chose que je sais pas quoi, un an avant, enfin voilà. Tout ça n'y est pas. Sur les controverses internes, c'est un peu la même chose. Enfin, tout le monde n'était pas là. Bon, je sais pas, on est sur le Pax et le mariage. Il y avait très tôt, les années 90, il y en a qui revendiquaient le mariage. Donc, on avait fait un. Voilà. Les documents qui sortent étaient, on peut dire, des documents œcuméniques qui disent le document réel, position réaliste en disant. Elle a toujours eu, par exemple, a toujours voulu, ça a été un des grands choix, un partenariat qui ne soit pas sexualisé, qui soit ouvert, disons, à des couples homosexuels, quel que soit le genre. Alors donc, cette question qui a certainement été beaucoup débattue à un moment donné, elle est très opposée, et voilà. Donc on ne sait pas s'il y a des gens qui sont contre. Nous critiquons des gens comme Irène Théry, par exemple, qui au début promouvait un partenariat homosexuel strict. Hein. Mais voilà, donc les controverses à l'intérieur n'y sont pas vraiment. Même chose, puisque ça allait jusqu'au partenariat minimal, ce qui sera l'équivalent du pacte, qui a changé. Toute une série de noms, et puis ce qui revendiquait le mariage. Rien ne dit dans les documents que le point de vue sur le mariage est très minoritaire, et que la question de la paternité, de l'adoption et tout ça voilà, est présentée comme un horizon, et qui à l'époque avait été quand même, au point de vue, disons, symboliquement, c'était évidemment très fort, mais c'était porté par très peu de personnes. Si ce n'est que dans les documents, on a l'impression que tout ça est très ouvert et voilà, on n'a pas vraiment le poids des positions. Bon. L'autre chose que... Alors ça, c'était un manque. Ce que je dirais en termes d'intérêt ou d'apport de tout ce travail sur, disons, la mise en forme des traces... c'est quand même d'une part le fait que Aide a survécu avec beaucoup d'aléas, beaucoup de changements aujourd'hui, etc. C'est que malgré tout, même si ça s'est fait dans le désordre, en gros, il y a une sorte de connaissance des positions de fond. Je pense que les volontaires, mais aussi à l'extérieur, savent que très tôt, Aide a été le porteur de l'accès au dossier médical, de la lutte contre le secret, des positions, obtenir des textes qui sanctionnent la discrimination liée à l'état de santé, enfin, toute une série de choses comme ça. Je pense que ça a créé, une sorte de... on peut dire de corpus, de position, enfin, ça a créé de la cohérence, et ça a contribué à la survie. Par rapport à beaucoup d'autres associations qui ont, voilà, même par exemple ACT UP qui continue à avoir ACT UP, c'est essentiellement une image médiatique. Le ACT UP ne représente à Paris que quelques, peut-être une dizaine de personnes, mais si ACT UP fait un appel à manifestation, il y aura énormément de gens, mais qui ne sont pas les... Il n'y a pas de militantisme très, très continu. Bon. L'autre chose qui me semble intéressante, qui est plutôt du point de vue des historiens, c'est quand même, je pense qu'à partir de tout ce qui est disponible, il y aurait la possibilité, mais ça a déjà été un peu écrit, de mettre en relation, on peut dire, deux types de chronologie. La chronologie de l'évolution d'une épidémie, qui s'est quand même transformée à partir du dépistage, à partir des trithérapies, à partir de, etc. Et donc le mettre en relation avec l'évolution des, disons, des engagements, des pratiques militantes, etc. Ça a un impact, disons, important. Et je pense que les interactions sont fortes. Et ce que je dirais, c'est une formule que vous avez employée hier soir, c'est, mais que j'avais déjà sur mon petit papier, j'ai envie de terminer sur un paradoxe, c'est qu'en fait, par rapport à la question des traces et des archives, c'est-à-dire, je dirais que plus il y a d'archives, plus il y a d'institutionnalisation, plus c'est aussi un indicateur d'une forme de vieillissement, de vieillissement et de normalisation de ces groupes qui, au fond, pour les deux, les juristes, on a perdu en radicalité le jour où on a arrêté de travailler, donc voilà, et pour Aide aussi, qui est aujourd'hui devenu une sorte un peu d'expert de santé publique, qui finalement fait plus d'action, enfin autant moins d'action, on peut dire, vers les pays en développement qu'elle n'en fait sur le territoire français, donc une sorte de qui devient une sorte de grosse ONG, voilà, gestionnaire. Voilà ce que je pouvais vous dire.